VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, John Lyndon et Morgan Guiriec en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mercredi 17 août 2016. Au sommaire ce soir.
Un mort par balle lors d'une manifestation anti-gouvernementale à Béni, dans l'est de la RDC.
Les jeunes ont jeté des pierres et les policiers ont réagi avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu aussi des coups de balles réels. Il y a déjà eu un mort.
Au Mali, on compte un mort et plusieurs blessés à Bamako lors de la première comparution de l'activiste et homme de radio, Rasbach.
Dans notre segment sur la présidentielle américaine 2016, le républicain Donald Trump remanie une nouvelle fois son équipe de campagne.
Et plein feu sur les Jeux Olympiques, juste après le journal.
À Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, un manifestant a été tué lors des heurts avec les forces de l'ordre. Idriss Fall.
Selon un médecin de l'hôpital de Béni, une personne a été tuée par une balle dans le dos et d'autres blessés. La tension pourrait ne pas retomber puisque des habitants de Boutembo, à une cinquantaine de kilomètres, ont rejoint Béni, tout comme ceux de la cité d'Oïcha. Des centaines de manifestants étaient sortis pour dénoncer l'inaction des autorités face aux atrocités qui touchent la région. Les forces de l'ordre les ont violemment dispersés à coups de gaz lacrymogènes et de tirs de sommation. Hier, le premier ministre Augustin Matata a effectué une visite éclair dans la ville. Il a été hué par la foule qui a appelé à sa démission, accusant les autorités de ne rien faire pour protéger les populations. 51 civils ont été tués dans le tout dernier massacre ce week-end. Lundi, la société civile avait décrété 3 journées de deuil à la mémoire des victimes. Le territoire de Béni est le théâtre d'une série d'attaques à l'arme blanche qui ont fait près de 650 morts depuis octobre 2014. Le gouvernement et la MONUSCO attribuent ces tueries aux rebelles ougandais des ADF.
Et nous restons dans l'est de la RDC. 3 agents de l'organisation catholique Caritas Congo ont été libérés aujourd'hui. C'est ce qu'annonce l'organisation humanitaire. Ils avaient été enlevés hier au cours d'une embuscade vers Mousso où des rebelles hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDL, sont actifs.
Au Mali, les manifestations de soutien aux jeunes activistes et hommes de radio Rasbach ont mal tourné. On compte un mort et 11 blessés. Les protestataires dénonçaient l'interpellation lundi soir de Rasbach pour atteinte aux mœurs. Le point sur place avec Kassim Traoré.
Le procureur de la République près de la cour d'appel de Bamako a interpellé un jeune activiste, communément appelé à Bamako Rasbach. Il fait des chroniques sur certaines radios de la capitale malienne. Ce matin, il devrait passer devant le juge du tribunal de la commune 4. C'est pour cela que ses partisans et fans ont organisé une manifestation devant le tribunal de la commune 4. Cette manifestation a dégénéré. Le bilan provisoire est d'un mort, 11 blessés qui sont tous au niveau de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. C'est là parce que la police a fait usage de gaz lacrymogène. La justice reproche aux jeunes activistes une atteinte aux mœurs. Ces derniers jours, ils s'attaquaient à la gestion de l'armée malienne, la défaite des militaires en Nampala. Ils accusent aussi le chef d'état-major général de l'armée malienne d'incapacité à pouvoir gérer les militaires maliens. Mais avant cela, dans sa chronique intitulée « Cartes sur table », Rasbach avait dénoncé la gestion du premier ministre et bon nombre de cadres de l'administration malienne. Le jeune activiste est le fils de l'actuel ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali Batili, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les douanes maliennes ont saisi cette semaine plus de 2 tonnes de cannabis en provenance du Burkina Faso, une marchandise destinée au Sénégal et à la Guinée, d'après les autorités.
Le mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir, a débuté aujourd'hui à Luanda, la capitale, un congrès de 4 jours pour élire à sa tête le chef de l'État, José Eduardo dos Santos. Au pouvoir depuis 1979, ce dernier vise une réélection à la présidentielle de 2017. Les détails avec Nani Talani.
L'issue du vote qui doit avoir lieu vendredi ou samedi ne fait pas de doute. José Eduardo dos Santos étant l'unique candidat à la tête du parti. C'est une honte qu'il fasse cavalier seul. C'est le propre des dictatures qu'un président qui est là depuis 1979 soit candidat à sa propre succession, note Agostinho dos Santos, analyste politique très critique du pouvoir. José Eduardo dos Santos a affirmé en mars qu'il quitterait la vie politique en 2018, un an après sa probable réélection. Un de ses fils, José Filomeno, et une de ses filles, Tizé, vont faire leur entrée au comité central du parti et font figure de favoris à sa succession, selon plusieurs observateurs. Connue pour être la femme la plus riche d'Afrique, sa fille aînée, Isabel dos Santos, est depuis juin présidente de la Sonangol, la compagnie pétrolière publique.
Soudan du Sud, le nouveau vice-président Taban Dengueye appelle son prédécesseur Riek Machar à se tenir à l'écart des affaires politiques du pays afin de permettre la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015 à Addis Abeba. M. Deng était un allié de l'ex-rebelle Riek Machar. Avant de le remplacer au poste de vice-président, il lui recommande d'attendre les élections en 2018.
Et c'est dans ce contexte que l'ONU annonce l'ouverture d'une enquête sur des exactions commises contre des civils, y compris des travailleurs humanitaires, par des soldats à Djouba en juillet. L'incapacité des casques bleus à empêcher ces violences sera aussi au cœur de l'enquête. Il faut dire que le secrétaire général Ban Ki-moon se dit préoccupé par des allégations selon lesquelles la MINUS n'a pas réagi de manière appropriée pour prévenir de graves actes de violences sexuelles au Soudan du Sud.
Pour parler de paix sur le Mozambique, dans la capitale Maputo, le gouvernement et la RENAMO, le principal parti de l'opposition, annoncent un premier accord visant à un partage du pouvoir au niveau régional. La RENAMO, l'ancienne rébellion qui contestait les résultats des élections présidentielles et législatives de 2014, réclamait le pouvoir dans 6 provinces sur 11 qu'elle considère avoir remportées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La bataille pour le contrôle de Sirte se poursuit en Libye. Le groupe État islamique aurait mené 9 attentats suicides hier pour tenter de maintenir des positions qu'il a finalement perdues. C'est du moins ce qu'affirment les forces du gouvernement d'Union nationale.
Pour la deuxième journée consécutive, des bombardiers russes frappent la Syrie à partir de la base militaire iranienne d'Hamedan. La Russie se défend de violer la résolution de l'ONU sur l'Iran. Eric Manirakiza.
Depuis le déclenchement de sa campagne militaire il y a près d'un an, c'est la première fois que la Russie utilise le territoire d'un pays tiers pour procéder à des frappes en Syrie. Ces bombardiers décollent de la base militaire iranienne, un pas supplémentaire dans la coopération militaire entre les deux principaux soutiens du régime de Damas. Et pour le deuxième jour consécutif, la Russie a visé des positions djihadistes en Syrie. Ceci a provoqué des réactions à Washington. Un porte-parole du département d'État américain a déclaré ce mardi que la Russie violait l'embargo de l'ONU sur la vente ou le transfert d'armes en Iran. La Russie a réfuté ces accusations. Le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov, a rétorqué que les frappes effectuées en Syrie par la coalition internationale menée par les États-Unis depuis la base turque d'Incirlik étaient contraires à la Charte des Nations Unies. Selon la Russie, ces frappes ont permis la destruction de 2 postes de commandement et de camps d'entraînement de l'État islamique, ainsi que l'élimination de plus de 150 combattants, parmi lesquels figuraient des mercenaires étrangers.
La Turquie a commencé ce mercredi à libérer 38 000 personnes non impliquées dans le putsch avorté, afin de faire de la place aux complices présumés du coup de force dans ces prisons engorgées par la purge implacable menée depuis un mois. Environ 38 000 prisonniers condamnés pour des faits antérieurs au coup d'État raté du 15 juillet vont ainsi bénéficier d'une mesure de libération anticipée sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, Bekir Bozdag.
2 cousins morts en kamikaze à Bruxelles, un frère emprisonné pour terrorisme, Oussama Attar, 32 ans, dont 8 passés dans les geôles irakiennes, est activement recherché par les enquêteurs belges pour sa participation présumée aux attentats qui ont fait 32 morts le 22 mars dans la capitale belge. Ce belgo-marocain, qui n'a pas donné signe de vie depuis au moins 2 ans, est l'un des hommes les plus recherchés de Belgique et même d'Europe, affirme une source proche du dossier. Emprisonné dans plusieurs établissements irakiens, dont 3 dans la fameuse prison d'Abu Ghraib, selon son avocat, il était retourné en Belgique après sa libération en septembre 2012.
La Corée du Sud a annoncé aujourd'hui la défection de l'ambassadeur adjoint de Corée du Nord en Grande-Bretagne, un événement extrêmement rare qui constitue un grave revers pour Pyongyang. Le ministère de l'Unification a précisé que Tae Yong-ho, numéro 2 de la mission nord-coréenne à Londres, était passé au sud avec sa femme et son fils et que la famille se trouvait désormais à Séoul. Près de 30 000 Nord-Coréens sont parvenus à fuir au sud la pauvreté et l'oppression qu'ils subissaient dans leur pays, en dépit des risques encourus.
La Norvège va ouvrir une ligne de crédit $1 milliard pour l'Iran, a annoncé mercredi la République islamique à la suite d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays à Téhéran. L'Iran a signé en juillet 2015 un accord avec les grandes puissances qui a permis la levée d'une partie des sanctions internationales contre ce pays en échange d'une limitation de son programme nucléaire à usage civil. Mais depuis l'entrée en vigueur de l'accord en janvier, la République islamique déplore des freins persistants.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un générique qui ne trompe pas, Nicolas Pinot est dans ce studio pour parler de sport. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, John.
Le journal des JO sur VO Afrique, nouvelle médaille d'or pour le Kenyan.
Le Kenyan Conseslus Kipruto a été sacré champion olympique du 3000 mètres steeple avec en prime le record olympique. Il s'impose en 8 minutes, 3 secondes et 28 centièmes devant l'Américain Evan Jaeger et son compatriote Ezekiel Kemboy. C'était tout à l'heure à Rio. Le Français Mayedine Mekissi, double vice-champion olympique, a terminé au pied du podium, mais il va déposer une réclamation. Il estime que Kemboy a coupé le virage à mi-parcours à surveiller. À seulement 21 ans, le vainqueur Conseslus Kipruto compte déjà 2 médailles d'argent aux mondiaux en 2013 et 2015.
La moisson kenyane avait déjà commencé la nuit dernière.
Oui, puisque la Kenyan Faye Kipyegon a remporté le 1500 mètres des Jeux en 4 minutes 8 secondes et 92 centièmes. Elle a devancé la favorite, l'Éthiopienne Genzebe Dibaba et l'Américaine Jennifer Simpson. Kipyegon, 22 ans, a ainsi pris sa revanche sur les mondiaux 2015 à Pékin où Dibaba l'avait devancé pour l'or. Et puis on poursuit, bilan mitigé pour la Côte d'Ivoire, puisque seule une sprinteuse sera en finale du 200 mètres. Marie-Josée Talou sera bien en finale ce mercredi, mais Muriel Aouré a échoué en demi-finale. Et puis un mot pour vous dire que les Angolaises ont été battues 27-31 par les Russes en quart de finale du tournoi de handball.
Les autres résultats de ce mercredi, Nicolas.
L'athlète béninoise Noélie Garrigo, qualifiée pour les demi-finales du 800 mètres, elle a été repêchée au temps. Alignée dans la quatrième série, elle a terminé à la quatrième place avec un chrono de 1 minute 59 secondes 12 centièmes, record du Bénin battu. En javelot, Julius Yego, le champion du monde kényan de la discipline, entre en compétition. Il tentera de se qualifier pour la finale qui aura lieu samedi. Et puis à suivre la marocaine Khadija Mardi chez les 75 kilos en finale en boxe. La médaille de bronze est donc assurée. À suivre tout à l'heure la demi-finale des Nigérians en football contre l'Allemagne dans le tournoi masculin. Les footballeurs nigérians disputeront les demi-finales des Jeux Olympiques pour la troisième fois après la médaille d'or de 1996 et la médaille d'argent de 2008. Le Brésil qui affronte le Honduras en demi-finale et la promenade de santé pour les Brésiliens. Neymar a ouvert le score dès la 15e seconde pour la Seleção et 3-0 à la mi-temps. En taekwondo, la Congolaise Rosa Kelekou, porte-drapeau de la RDC, éliminée dès les 16e de finale des moins de 49 kilos. Elle a été battue au point 9-5 par une Mexicaine. On écoute la réaction de l'athlète de Kinshasa qui souligne son manque de préparation.
pour le moment, en fait, je ne m'attendais pas à ça et ce sont les traits qui arrivent aussi. Donc, je me suis donnée au fond, donc ça n'a pas marché, en fait. C'est le haut niveau, c'est une grande compétition, en fait, des Jeux Olympiques, en fait. J'ai fait de mon mieux, ça n'a pas marché, en fait. Elle a eu vraiment le temps de préparer les Jeux Olympiques, donc ça n'a pas marché, en fait, parce que je n'ai pas vraiment eu mon temps de la préparation, donc c'est un peu ça.
Rosa Kelekou, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Et on rappelle qu'au classement des médailles, les États-Unis sont premiers devant la Grande-Bretagne et la Chine.
Et oui, une des grandes contributrices chez les Américaines, c'est la gymnaste star Simone Biles. La jeune Américaine de 19 ans a remporté hier sa 4e médaille d'or de ces JO, cette fois-ci au sol. Le point avec Jean-Roger Billon.
À noter qu'Ali Reisman, déjà sa dauphine au concours général, se classe 2e de ce concours au sol. Ce duel opposait les deux Américaines entre la triple championne du monde en titre d'un côté et la tenante olympique de l'autre. Pour ses premiers Jeux, la jeune Texane de 19 ans a déjà remporté à Rio le concours par équipe, le concours général, le saut et obtenu une médaille de bronze à la poutre. Avec ses 4 titres, Simone Biles égale le record de 4 titres sur les mêmes JO co-détenus par la soviétique Larisa Latinina et la hongroise Agnès Keleti en 1956, quand il y avait 7 compétitions contre 6 aujourd'hui, ainsi que la tchécoslovaque Vera Kaslavaska et la roumaine Ekaterina Szabo. À noter l'échec de la Chine qui répare des JO sans aucune médaille d'or en gymnastique artistique, masculine et féminine, une première depuis 1984.
C'était le sport, merci Nicolas.
La Minute Éco avec Nathalie Barge.
La Banque centrale d'Algérie a rejeté les prévisions de la Banque mondiale qui a annoncé une chute des réserves de change du pays à 60 milliards de dollars dans 2 ans. Selon la Banque algérienne, le niveau des réserves de change connaîtra un redressement d'ici fin 2018 et sera nettement supérieur à celui pronostiqué par la Banque mondiale. En Afrique du Sud, Kero Holdings va investir 109 millions de dollars dans la construction d'une centaine d'établissements scolaires et l'extension de ses écoles existantes, ce qui doublera le nombre d'écoles privées qu'elle gère. L'initiative vise à répondre à la demande croissante des classes moyennes pour l'enseignement privé. Les groupes bancaires gabonais et nigérians, BGFI et Ouba, ont accordé un crédit de 48,4 milliards de francs CFA au Cameroun pour la construction de 2 stades de football avant la CAN 2019. Le stade de Yaoundé sera construit à Olembé par une entreprise italienne et celui de Douala à Japoma par une entreprise turque.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgan Guiriek et John Lyndon en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale Morgan, la RDC.
Le président de la société civile de Bénéville condamne la violence policière lors de la manifestation du 17 août qui a fait au moins un mort. Il appelle toujours à la démission des ministres congolais de la Défense et de l'Intérieur en RDC. Nicolas Pinault a joint Gilbert Kambalé, président de la société civile de Bénéville.
La population a réagi négativement. Vous savez qu'ils ont eu le premier ministre, il y avait une forte tension. Et donc ce matin, la tension a encore augmenté d'intensité. Il y avait des marches de protestation et les jeunes ont jeté des pierres et les policiers ont réagi avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu aussi des coups de balles réels. Il y a déjà eu un mort blessé par balle. Condamnons-nous comme société civile parce que les manifestants n'avaient rien, aucune arme blanche, aucune arme à feu. Ils manifestaient seulement avec des banderoles et des calicots et des branchages d'arbres pour montrer qu'ils sont vraiment dans l'exaspération. On l'a dit hier au premier ministre Batata Ponyo qu'aujourd'hui, à partir du 2 octobre 2014, on est à plus de 1207 personnes massacrées, tuées à la hache et à la machette. Devant les FRDC, la police, parce que c'était en ville cette fois-ci, et même devant la force d'intervention, FAID de la MONUSCO. Donc vous comprenez que Même la MONUSCO est mal perçue parce que leur priorité, c'est de protéger les civils, mais on continue à les massacrer comme des animaux et la population n'est pas d'accord avec ça.
Vous demandez toujours la démission du ministre de la Défense ?
Oui, le ministre de la Défense et de l'Intérieur et Sécurité. Et nous avons demandé leur démission et nous attendons qu'ils partent du gouvernement.
Est-ce que la tension va pouvoir baisser à Beni après ces incidents ?
Je doute fort parce que vous voyez que les policiers qui viennent de tuer ces paisibles citoyens, il l'a tué en bout portant. Et donc nous attendons d'abord qu'il y ait les enquêtes et que ces policiers puissent comparaître. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'armes peut tirer sur lui? Et il faut disproportionner dans la réaction. Jusqu'à présent, il y a des coups de balles maintenant, des armes lourdes, tout ça. Donc ils doivent s'expliquer. Mais également, il y a des paisibles citoyens qui ont été arrêtés, d'autres blessés qui sont à l'hôpital. Et nous, comme société civile, nous sommes en train de faire le monitoring au moment où je vous parle pour dresser un rapport final dans la soirée. Mais en tout cas, la tension risque de ne pas baisser à cause de ces morts et à cause des solutions qui ne sont pas encore trouvées jusque-là par rapport au massacre.
Gilbert Cambalé, président de la société civile de Bénéville.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, retour sur le dernier massacre en date à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants sont en colère contre le pouvoir après cette énième tuerie. Pourquoi cette partie du pays est-elle la proie des groupes armés ces 25 dernières années? Quels sont ces groupes armés? À qui profite cette guerre? Que fait le gouvernement de Kinshasa? Et quid du rôle des pays voisins? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Burundi est de nouveau touché par une épidémie de choléra. Anastasie Tudiesh a joint Bujumbura, Tade Ndikumana, porte-parole du ministère de la Santé.
Depuis le 27 juillet 2016, nous avons observé une recrudescence de l'épidémie de choléra. C'est précisément le district sanitaire de Kabezi, dans Bujumbura, communément appelé Bujumbura Rural, mais aussi le district sanitaire Mérisside, où nous avons jusqu'à aujourd'hui enregistré 99 cas de choléra. Mais grâce à l'intervention du ministère de la Santé et aussi grâce à la prise en charge gratuite des cas de choléra, 70 malades ont été traités et guéris et maintenant ils sont entrer dans leur ménage. Actuellement, nous restons avec 18 patients qui sont arrivés dans ces trois derniers jours. Nous déplorons un seul cas de décès qui est survenu suite à une complication liée à la diarrhée, mais aussi qui était liée au paludisme.
Concrètement,
ce que nous faisons maintenant, c'est de pouvoir sensibiliser la population. Et s'il y a un cas qui est signalé au niveau des ménages, il y a l'intervention en rapport avec la désinfection, la pulvérisation pour que d'autres populations ne puissent pas être contaminées. Et aussi, il y a l'approvisionnement en eau potable, puisque pendant la saison sèche, nous avons observé que dans ces quartiers, mais aussi au niveau du district de Kabezi, il n'y avait pas des sources d'eau en tari et il n'y avait pas d'eau potable. Et ce sont des actions qui sont aussi accompagnées par des sensibilisations pour que la population puisse appliquer scrupuleusement les mesures d'hygiène. Les 10 mesures d'hygiène, mais aussi c'est la conjugaison des efforts pour préparer les centres d'accueil de ces malades. Actuellement, nous avons des centres d'accueil que nous avons érigés au niveau du district de Kabezi et au niveau de la mairie de Bujumbura.
Comment expliquez-vous que le choléra revienne comme ça au Burundi? Ce n'est pas la première épidémie de choléra qui se manifeste dans votre pays?
Et effectivement, ça se observe surtout au niveau de la région de Limbo, parce que comme les études l'ont montré, les vibrio chorale se trouvent surtout au niveau du lac Tanganyika et c'est au niveau de la plaine qu'on observe souvent des cas de choléra. Mais à l'intérieur du pays, ces cas ne se observent pas. Et c'est lié surtout aux grandes agglomérations, mais aussi à ces réservoirs d'eau qui contiennent ces vibrio chorale et consécutivement à qui sont aussi liés au manque d'hygiène, surtout la non-disponibilité de l'eau potable. C'est pour cela que nous interpellons la population à toujours bouillir l'eau, surtout avant de le consommer pour tuer ces vibrio chorale, mais aussi de pouvoir appliquer les mesures d'hygiène telles que le lavage des mains avant de manger, mais aussi après les toilettes.
Tade Ndikumana, porte-parole du ministère burundais de la Santé.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
On va donc présidentielle américaine 2016. Le candidat républicain Donald Trump a remanié, a remanié son équipe une nouvelle fois, son équipe de campagne.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump a remanié encore une fois son équipe de campagne. L'équipe de son adversaire démocrate Hillary Clinton, elle, est aux prises avec certains leaders républicains du Congrès concernant les emails de Mme Clinton du temps où elle était secrétaire d'État. Le point avec vous, Timothée Donangmaï.
C'est un changement majeur au sein de l'équipe de campagne de Trump. Son directeur général de campagne, Paul Manafort, cède sa place à Stephen Bannon, directeur du site d'information conservateur Breitbart. En outre, la sondeuse Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump, est promue directrice de campagne. Paul Manafort conserve son poste de président de l'organisation de la campagne ainsi que celui de stratège en chef, précise le communiqué de l'équipe Trump. C'est la seconde fois que le candidat républicain procède à une modification majeure de son équipe. En juin, il s'était séparé de son collaborateur de longue date, Corey Lewandowski, pour le remplacer par Paul Manafort. Ex-lobbyiste international, ce dernier a eu comme client Mobutu Sese Seko, entre autres. Il a été cité cette semaine dans un article du New York Times disant qu'il aurait perçu des versements en liquide de plus de 12 millions de dollars du parti de l'ex-président pro-russe d'Ukraine, Viktor Yanukovych, des accusations qu'a démenti Manafort. L'appel à Stephen Bannon, un des faucons du camp conservateur, signale clairement que Donald Trump n'a pas l'intention de modifier son style de campagne, une perspective préoccupante pour les républicains dans la mesure où Trump continue de perdre du terrain dans les sondages face à Hillary Clinton.
Et si la candidate démocrate peut être satisfaite de sa campagne, elle a encore du mal à se défaire de la controverse liée à ses emails du temps où elle était secrétaire d'État, Timothée.
Et oui, Morgan, l'affaire a fait l'objet d'une enquête du FBI, la police fédérale, qui a décidé, après un an de recherche, qu'il n'y avait pas de motif pour engager des poursuites judiciaires contre Mme Clinton. Toutefois, des élus républicains du Congrès veulent maintenant déterminer si la candidate démocrate a été véridique dans ses réponses aux enquêteurs. Ils ont donc demandé et obtenu des documents confidentiels relatifs à l'enquête. Les démocrates soupçonnent les républicains de vouloir faire circuler des extraits choisis pour donner une mauvaise image de leur candidate. Du coup, Brian Fallon, porte-parole de l'équipe de campagne de Mme Clinton, a appelé à la publication intégrale du rapport d'enquête du FBI. Le rapport, qui est classé secret, est en cours d'examen, a fait savoir un porte-parole de la commission de la Chambre des représentants chargée de la réforme gouvernementale, une commission dirigée par les républicains.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Joe Gill à la console. Présentation Morgan Guiriec et John Lindon.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VO Afrique. Merci à nos près d'1 700 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.